Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On reviendra sur la première journée de l'Assemblée générale de l'ONU hier, marquée par le discours du président américain Donald Trump et de l'un de ses soutiens, son homologue brésilien Jair Bolsonaro.
Donald Trump, qui depuis hier est visé par une procédure de destitution, il est soupçonné d'avoir appelé le président ukrainien pour lui demander d'enquêter sur son rival Joe Biden. On ira à Washington.
800 millions d'euros de crédit budgétaire pour une nouvelle prime. Elle remplacera l'an prochain le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Qu'est-ce que ça change? On fera le point avec Anne-Laure Jumet. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, comment définir les atteintes à la laïcité, notamment à l'école? On posera la question à Valentine Zuber, elle est historienne et directrice d'études à l'école pratique des hautes études.
Des leaders populistes et autoritaires hier à la tribune de l'ONU pour la première journée de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président américain Donald Trump en était le chef de file, devenu un modèle pour de nombreux chefs d'État de la planète. Christian Chesneau a suivi leur discours.
Donald Trump a donné le ton avec un discours ouvertement nationaliste. Il s'est même présenté comme l'incarnation du renouveau national face au multilatéralisme qu'il déteste.
L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines, indépendantes, qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins, honorent les différences qui font que chaque pays est unique.
Avant lui, Jair Bolsonaro n'a pas caché son admiration pour Donald Trump, une source d'inspiration. Sur le dossier de la forêt amazonienne, il considère qu'elle est d'abord brésilienne avant d'être le poumon de la planète.
Nous sommes l'un des pays qui protège le mieux l'environnement. Tous les pays ont leurs problèmes, mais ces attaques n'ont fait que susciter encore plus de patriotisme chez nous. On ne peut pas dire que l'Amazonie est un héritage ou un patrimoine mondial. C'est erroné, comme les scientifiques le disent. On ne peut pas affirmer que cette forêt est le poumon du monde.
L'homme fort de l'Égypte, le président Sisi, lui, s'est présenté à l'ONU comme le champion de la lutte contre le terrorisme, quitte à sacrifier les droits de l'homme.
Les conditions d'une négociation entre les États-Unis et l'Iran sont réunies. C'est en tout cas ce que croit le président Emmanuel Macron, présent lui aussi au siège de l'ONU. Depuis la mi-septembre et l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes attribuées à l'Iran, les tensions sont très vives entre Washington et Téhéran. Le chef de l'État français espère toujours une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Donald Trump qui est visé par une enquête en vue d'une destitution initiée par les démocrates hier. Ils en parlaient depuis des mois. Ils se sont enfin lancés, bien décidés, après des révélations sur un coup de téléphone du président américain à son homologue ukrainien. Hier soir donc, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé la première étape de cette mise en accusation. À Washington, Gregory Phillips.
Elle a passé l'après-midi en réunion au Capitole avec ses collègues représentants démocrates à peser le pour et le contre d'une telle initiative. À 17h, Nancy Pelosi, solennelle, annonce finalement qu'elle déclenche la première étape d'une mise en accusation de Donald Trump. Elle a été convaincue par l'aile gauche de son parti et aussi par les révélations de ces derniers jours. Ce coup de téléphone fin juillet entre Trump et son homologue ukrainien Zelensky, le président américain, aurait fait pression sur ce dernier afin qu'il lui communique des informations sur le rival Joe Biden. La façon dont cette présidence agit, déclare Pelosi, montre bien que Trump a trahi le serment fait en prenant ses fonctions. Il a compromis la sécurité du pays et l'intégrité de nos élections. Mais Nancy Pelosi sait aussi que cette arme est à double tranchant, qu'elle peut se retourner contre les démocrates et que Trump, il a déjà commencé à le faire, aura beau jeu de dénoncer une chasse aux sorcières qu'il a qualifiée hier soir de caniveau. La présidente de la Chambre sait aussi que cet épisode va polluer la campagne électorale qui a déjà débuté et surtout qu'en l'état actuel des choses, avec un Sénat dominé par les Républicains, la démarche n'a aucune chance d'aller jusqu'au bout.
Les députés britanniques reprennent le chemin de la Chambre des communes aujourd'hui au lendemain d'un arrêt historique. La Cour suprême a annulé hier la suspension du Parlement décidée par le Premier ministre. Une requête jugée illégale par la plus haute juridiction du pays. La session risque d'être animée. On ne sait pas encore si Boris Johnson sera présent. Il est censé rentrer ce matin de son déplacement à l'ONU, Antoine Gignot.
Il n'a plus beaucoup d'options, Boris Johnson. S'il veut continuer à gouverner et faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne fin octobre, il lui faut une majorité face au Parlement. Il risque donc de réclamer une nouvelle fois des élections anticipées. Peu de chances qu'il y parvienne. Il lui faudrait, pour déclencher un scrutin, les deux tiers des voix à l'Assemblée, et l'opposition refuse de se lancer dans une campagne électorale à 5 semaines de la date officielle du Brexit. Nous utiliserons tous les mécanismes possibles pour arriver à organiser un vote, explique le porte-parole du Parti travailliste, mais nous devons nous assurer que le gouvernement ne profite pas de cette période pour sortir brutalement de l'Union européenne. À l'ouverture de séance, les libéraux démocrates, les indépendantistes écossais, les gallois, les travaillistes vont donc sans doute réclamer une nouvelle fois la démission du Premier ministre. Sans aller beaucoup plus loin, les débats pourraient donc tourner au pugilat sans aucune avancée concrète.
La correspondance d'Antoine Gignot à Londres.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre pour les particuliers qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Le gouvernement vient de procéder à une importante modification.
Dès le 1er janvier 2020, le crédit d'impôt transition énergétique dont il bénéficie aujourd'hui sera remplacé par une prime d'État. Les 20% de ménages les plus aisés en seront exclus. Une annonce faite 3 jours avant la présentation du projet de loi de finances et qui contrarie le secteur du bâtiment. Explication d'Anne-Laure Jumet.
L'avantage d'avoir une prime, c'est qu'il ne faut plus attendre 1 an avant de percevoir une aide pour le remplacement de ses fenêtres ou encore de son ancienne chaudière. Le système sera plus simple, plus efficace et aussi plus juste, défend le gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, la moitié du crédit d'impôt transition énergétique bénéficie aux 20% des ménages les plus aisés. Demain, ce ne sera donc plus le cas puisque ces 20%-là seront exclus du nouveau dispositif. Mais pour Patrick Liebus, qui représente les artisans du bâtiment au sein de la CAPEB, c'est une erreur.
Écarter cette catégorie de personnes qui engagent régulièrement des travaux, c'est une erreur qui va avoir des conséquences. Pour tenir des objectifs qui ont été donnés de rénovation énergétique, d'économie d'énergie dans son ensemble, on va continuer d'expliquer qu'il ne faut pas traiter une catégorie différemment d'une autre catégorie.
Alors 2020 est une année de transition. Les ménages les plus modestes bénéficieront de la prime. Les autres garderont encore le bénéfice du crédit d'impôt avant de migrer l'année d'après vers le nouveau système. Pas de quoi rendre lisible cette réforme, s'inquiète Patrick Liebus, d'autant qu'il devrait y avoir un décalage dans le temps entre le déclenchement des travaux et le versement de la prime.
Notre inquiétude, c'est que l'application de la prime et la remise de la prime ne pourraient pas se faire au mieux à partir d'avril. Il va y avoir une zone blanche qui va être assez compliquée à gérer. Les précaires, les très précaires ne feront sûrement pas l'avance. Et d'autre part, les entreprises ne partiront pas sur ces marchés-là sans avoir l'assurance d'être payées comme il se doit par rapport aux travaux qu'ils auront faits.
Et le secteur du bâtiment espère encore pouvoir faire pression pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Il va notamment contacter des parlementaires afin qu'ils portent cette question lors de la discussion budgétaire.
C'était un point qui devait figurer dans ce même projet de loi de finances. Finalement, hier, le gouvernement a reculé. Il renonce à raboter les aides à l'emploi à domicile pour les seniors. Cela concernait les personnes âgées non dépendantes qui emploient une aide à domicile. Emmanuel Macron a reconnu hier que cette mesure n'avait pas été dûment concertée et qu'elle pouvait avoir un impact négatif sur le pouvoir d'achat des seniors. 150 000 manifestants ont défilé hier en France contre la réforme des retraites, selon le secrétaire général de la CGT. Après Force ouvrière, c'était au tour du syndicat mené par Philippe Martinez de se mobiliser contre cette réforme. Le gouvernement souhaite fusionner les 42 régimes en un système unique à points à l'horizon 2025. Solidaires, la FSU et l'UNSA ferroviaire ont rejoint le mouvement, mais de nombreux manifestants regrettent l'absence de front commun, comme Hervé, salarié chez Renault et syndiqué CGT.
Chacun fait son truc de son côté, ça c'est dommage. En mon nom, je préférerais qu'effectivement on soit tous unis et faire une action commune. Et après, pour essayer de faire payer le gouvernement. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui est, c'est dommage. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait que la CGT et que samedi dernier, il n'y avait que FO. Bon, c'est dommage.
Et ça peut vous démotiver, ces divisions ?
On est là, on a espoir, mais bon, s'il n'y a pas vraiment une contre-attaque du monde des travailleurs, ensemble, on ne va pas y arriver, c'est pas possible.
Hervé, rencontré dans le cortège parisien par Thomas Larabie. L'intersyndicale aura lieu très prochainement, affirme la CGT, qui souhaite trouver une date de mobilisation commune avec Force ouvrière. La ville japonaise de Kamaishi se relève 8 ans après le tsunami qui l'a dévastée. C'est là que se joue dans quelques minutes seulement le match Fidji-Uruguay dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, dans le plus petit stade de la compétition, mais un stade neuf, symbole d'une renaissance. Parce que le rugby à Kamaishi, ce n'est pas qu'un sport, sur place le reportage de Jérôme Val.
Le tsunami meurtrier a fait plus d'un millier de victimes à Kamaishi. Il a détruit jusqu'à 70% des maisons dans certains quartiers. Et malgré le chaos, très vite, une idée fait son chemin, rejouer au rugby, véritable passion dans cette ville industrielle.
Je m'appelle Yu Saiki et je suis l'entraîneur de l'équipe de rugby. Quand j'ai vu les dégâts, je me suis dit que Kamaishi, c'était terminé. J'étais bénévole pour aider les rescapés et ce sont les habitants qui nous ont dit « s'il vous plaît, recommencez le rugby ». Là, je me suis dit qu'il fallait peut-être rejouer.
D'autres rêvent d'un projet encore plus fou, construire un nouveau stade et accueillir des matchs de la Coupe du Monde qui vient d'être attribué au Japon. Yoshihiko Sakuraba est le manager des Sea Waves, le nom de l'équipe locale.
Il y a encore des sinistrés qui sont dans des logements provisoires, la page du tsunami n'est pas tournée, mais grâce à la Coupe du Monde, la reconstruction s'est accélérée et les habitants ont retrouvé le moral. Il y a encore de l'espoir.
Kamaishi compte à peine 33 000 habitants et comme dans beaucoup de villes rurales au Japon, les jeunes partent ailleurs pour travailler. Pour Hisashi Masuda, l'homme qui a fait venir la Coupe du Monde à Kamaishi, ce stade doit incarner un espoir.
Le stade ne va pas régler tous les problèmes, mais il peut donner envie à des commerces et à d'autres activités de s'installer. Et ça pourrait faire revenir les jeunes à Kamaishi. Ce stade, c'est comme une porte ouverte entre Kamaishi et le monde.
Ce premier match entre les Fidji et l'Uruguay est bien plus qu'un événement sportif. Il marque la renaissance de Kamaishi.
Le reportage de Jérôme Val. Le temps aujourd'hui reste maussade et pluvieux pour une grande partie du pays. Des rafales de vent sont attendues près de la Manche, sur les côtes varoises et le nord de la Corse. Les températures cet après-midi ne monteront pas plus haut que 17 degrés à Brest et Lille, 18 à Strasbourg, 19 à Paris. Vous aurez 23 degrés à Lyon et jusqu'à 28 à Nice, Guillaume.
Merci Margot Delpierre. 7h12 sur France Culture dans quelques instants. Comment définir les atteintes à la laïcité à l'école ?